Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui va abandonner ce ton solennel et qui va vous rappeler ou vous apprendre que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art aussi particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis quelque part vers la fin du 19e siècle. Et oui, et nous sommes maintenant dans le 21e bien entamé. Enfin, quand je dis bien entamé, hein, c'est une figure de style. Ce jour dans 24 notes seconde, eh bien, nous allons consacrer notre émission à la carrière d'un réalisateur plutôt rare, puisque sur 30 ans, l'homme n'aura signé que 6 films, mais il a fait aussi beaucoup de publicité et un peu de télévision. Mais Baz Luhrmann, né le 17 septembre 1962 à Herons Creek. Comment ça, vous ne savez pas où est Herons Creek? Bah, c'est en Nouvelle-Galles du Sud. Hein. Nouvelle-Galles du Sud, c'est où? Bah, je ne sais pas, moi. C'est en Australie, à Nouvelle-Galles du Sud. Donc, Baz Luhrmann, donc, est un réalisateur, scénariste et producteur australien qui n'aura tourné que 6 films, mais dont on peut dire d'abord qu'ils sont tous à la fois complètement différents et en même temps relativement homogènes dans la façon assez baroque, flamboyante, pop un peu, dont Baz Luhrmann a l'habitude, je dirais, d'aborder ses sujets. Alors ça plaît ou ça ne plaît pas, ça marche ou ça ne marche pas, mais en tout cas, l'homme n'hésite pas, et ça, moi j'aime bien les gars qui n'hésitent pas. Il faut dire que Baz Luhrmann a de qui tenir, puisqu'en fait, ses parents pratiquent la danse et que son papa est gérant de cinéma, ce qui est quand même un bon marchepied, et donc, eh bien, il commence très rapidement à s'orienter vers le spectacle, d'abord vers l'opéra, mais oui, ensuite vers le théâtre et le cinéma. Et son premier film date de 1992. Alors c'est un film assez peu connu qui s'appelle Ballroom Dancing. Les interprètes aussi sont assez peu connus, en tout cas en dehors de l'Australie, où le film a été tourné. Paul Mercurio et Tara Morris. Et comme son titre l'indique assez, eh bien, le film se situe dans les milieux de la danse, à mon souvenir, dans des compétitions de danse. C'est assez enlevé, assez sucré, assez joli, un peu vain, mais relativement populaire. Et on va en écouter un petit extrait de la bande originale, Ballroom Dancing, dans 24 notes secondes.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. You can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. 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 Perhaps.
Et bien pour les plus doués, ça se danse, un extrait de la bande originale de Ballroom Dancing, un film de Baz Luhrmann tourné en 1992. Alors la chanson, vous la connaissez peut-être sous son, dans, sur son versant espagnol, dirais-je. C'est un grand classique de la chanson espagnole. On l'entendait notamment, sauf erreur de ma part, dans Tout sur ma mère de Pedro Almodovar, c'est dire. En tout cas, c'était un coup d'essai pour Baz Luhrmann et apparemment un coup de maître puisque pour son deuxième film, on va lui confier, alors on va pas écouter d'extrait de cette bande originale, on peut pas tout écouter, on va lui confier ce qui ne sont alors que des vedettes montantes, en l'espèce Claire Danes et Leonardo DiCaprio, qui reprennent dans le désordre les rôles de Roméo et de Juliette. Devinez que Leonardo jouait Roméo plus que Juliette, quoique ça pourrait être intéressant, et donc une version assez décoiffante, pourrait-on dire, de la pièce de Shakespeare. J'espère que je n'avais pas besoin de le mentionner, mais enfin, on ne sait jamais, c'est fait comme ça. Une version assez décapante, un peu rock'n'roll, alors on peut aimer, détester, ou être pire encore, indifférent. Ma foi, en tout cas, ça fonctionnait, et puis ça a permis surtout à Baz Luhrmann de se faire reconnaître au niveau international, puisque le film obtint un gros succès, tout à la fois critique et commercial, ce qui lui permit d'obtenir un budget beaucoup plus conséquent pour le troisième film de ce qu'il appelle la trilogie du Rideau Rouge. C'est lui qui dit ça, donc Ballroom Dancing, Roméo et Juliette, et là on comprend pourquoi Rideau Rouge, Moulin Rouge, un film tourné en 2001, avec dans le rôle principal eh bien, une autre star du cinéma australien, en l'espèce Nicole Kidman, avec à ses côtés un Écossais, comme son nom l'indique, Ewan McGregor. Alors Moulin Rouge, eh bien, ça se passe, comme vous aurez pu le deviner, dans le milieu des cabarets parisiens. C'est une sorte de succès d'année de la Dame aux Camélias, d'Alexandre Dumas fils, où on voit un jeune écrivain anglais joué par Ewan McGregor tomber fou amoureux évidemment d'une courtisane, ça veut dire putain, et d'une actrice de cabaret jouée par Nicole Kidman et qui porte dans le film le doux prénom si rare de Satine. Le tout est très exacerbé avec des effets visuels d'une très très grande beauté, il faut le reconnaître. Moulin Rouge, même si le côté romantique paraît parfois un peu outré et le lyrisme à la limite du schématisme, mais par contre la perfection visuelle du film est quand même tout à fait époustouflante et cela permet d'ailleurs à Baz Luhrmann, consécration suprême, d'être nommé pour 6 Oscars, non celui du meilleur film et celui de la meilleure actrice pour Nicole Kidman, même s'il dut se contenter de ce qu'on appelle des Oscars de second ordre, en l'espèce la meilleure direction artistique, c'est ce que je viens de dire, et la meilleure création de costumes, et il est vrai que ceux de Moulin Rouge sont somptueux. Allez, on écoute un extrait de cette bande originale avec Nicole Kidman, donc Moulin Rouge, Baz Luhrmann dans 24 notes secondes.
Another hero, another mindless crime behind the curtain, in the pantomime. On, does anybody know what we are living for? Whatever happened, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On, does anybody know what we are living for? The show must go on, the show must go on. Dawn is breaking on the stage that holds our final destiny. The show must go on. The show must go on.
Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays.
Ah ben oui, ça finit bizarrement, mais The Show Must Go On, vous l'aurez reconnu. Alors, sauf erreur de notre part, eh bien, il s'agit de la voix d'Hugh Jackman, dont il n'a même pas approuvé qu'il est aussi un bon chanteur. Il n'est pas que Wolverine, il est aussi un bon chanteur. On l'a notamment entendu dans Les Misérables, qui n'était peut-être pas la meilleure adaptation du roman de Victor Hugo. Mais surtout, on l'a entendu dans The Greatest Showman, qui était un film, ben, ma foi, plutôt bienvenu. Et en l'espèce, donc, c'était dans Moulin Rouge, un film de Baz Luhrmann qui venait clore cette trilogie du Rideau Rouge, c'est joli comme expression, et qui rencontra là encore un gros succès critique commercial, je l'ai dit, 6 nominations aux Oscars, ce qui permit à Baz Luhrmann eh bien, de voir encore plus grand, c'est ça les créateurs, et il se lança dans une deuxième trilogie, mais qui connut une fortune diverse, puisqu'il devait faire un film sur la Russie, qui ne se tourna pas, un autre sur la vie d'Alexandre de Grand, mais il fut coupé dans son élan par Oliver Stone, qui en 2004 éprouva le besoin, personne n'a jamais compris pourquoi, de teindre Colin Farrell en blond pour en faire un Alexandre le Grand, un Alexandre plutôt catastrophique, et donc de cette trilogie, il ne reste au final que Australia, un film tourné en 2008, une très très grosse production, apparemment le film le plus cher jamais réalisé en Australie, mais enfin, il le fallait, a priori, c'est une sorte d'autant n'emporte le vent australien, la parenté est quand même assez visible, puisqu'on voit Nicole Kidman, encore elle, dans le rôle d'une jeune veuve qui fait face à l'adversité, alors Scarlett, elle est veuve, mais bon, pas au début, je vous passe les détails, on a déjà parlé d'autant n'emporte le vent, et à ses côtés, eh bien, il y a à nouveau notre cher Hugh Jackman, lui aussi... 100% pure Bush, quand je dis Bush, hein, c'est la région d'Australie, hein, c'est pas George Bush, vous l'avez compris. Ma foi, c'est assez distrayant, bon, c'est pas forcément très passionnant ce que ça raconte de l'histoire de l'Australie, même si on a plaisir à retrouver notre cher David Gulpili, qui est sans doute le seul aborigène à avoir fait une vraie carrière au cinéma, et qui avait débuté dans les années 70 avec Peter Weir, autant vous dire qu'en 2008, il n'était plus tout jeune, mais évidemment, c'est une icône du cinéma australien, donc il ne pouvait pas ne pas apparaître dans Australia. Allez, on va écouter la bande originale, un extrait plutôt de la bande originale de ce film, ce qui me permettra, honte à moi, de retrouver le nom du compositeur. Et c'est promis, je vous le donne après avoir écouté ce morceau dans 24 notes secondes. Thank you. Wow. Eh bien, il me semble qu'on pourrait invoquer les mânes de Duke Ellington pour cette... Duke Ellington, c'est mieux. Pour cet extrait de la bande originale d'Australia, un film de Baz Luhrmann tourné en 2008 avec Nicole Kidman, qui joue le rôle d'une Anglaise, pour simplifier, et Hugh Jackman dans les rôles principaux. Alors lui, a un petit côté Crocodile Dundee, mais satirique, si vous voyez ce que je veux dire. Et Nicole, ben Nicole, c'est Nicole, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi. Entre 2008 entre 2008 et 2013, mais on ne sait pas trop ce qu'a fait Baz Luhrmann. De la publicité, parce que l'homme a fait beaucoup de publicité, notamment pour une marque de parfum qui commence par C, si vous voyez ce que je veux dire, et que Marilyn Monroe portait. C'est même la seule chose qu'elle portait, disait-elle. Mais on ne fait pas de publicité sur notre radio. Et en 2013, eh bien, il revint sur le devant de la scène pour un film qui était une adaptation d'un roman de Francis Scott Fitzgerald, Gatsby le Magnifique, certainement le plus beau des romans de Francis Scott Fitzgerald, mais un romancier américain des années 30, années 20 et même des années 30, qui brûla une large part de son existence dans l'alcool et dans le mariage tumultueux qu'il fit avec sa femme Zelda, formant une sorte de couple maudit. Bref, un de ces anges américains comme on en raffole, qui connaissent leur période de gloire, notamment lors de la parution de Gatsby, qui fut un très très gros succès, et puis qui ensuite connaissent la déchéance pour finir par mourir quelque part dans le courant de la Seconde Guerre mondiale, mais ils ne l'avaient pas fait, bien sûr. Quelque part à Los Angeles, j'imagine, et donc en 2013, eh bien, Baz Luhrmann reprit ce roman qui avait déjà été adapté plusieurs fois au cinéma, une fois au muet, me semble-t-il, aussi étonnant que ça puisse paraître, et puis surtout, on se souvenait en 2013 de la version tourné dans les années 70 par Jack Clayton, avec dans les rôles principaux de Gatsby, Robert Redford, et de la fille, puisqu'il y a toujours une fille, c'était Mia Farrow. Et dans la version 2013, signée par Baz Luhrmann, eh bien, ces deux-là sont remplacés par Leonardo DiCaprio, un des acteurs fétiches de Baz Luhrmann, on l'aura compris, et la délicieuse Carey Mulligan, dans le rôle de Daisy, elle s'appelle la fille, hein, dans Gatsby, le Magnifique. Et à leur côté, j'avoue que j'avais préféré ce personnage, eh bien, il y a le personnage de Nick Carraway, qui est celui d'ailleurs qui raconte l'histoire de Gatsby et de ce qu'il en advint avec Daisy, qui était interprété par Tobey Maguire, que ce fut de ma part qui fut Spider-Man, mais qui sut sortir du rôle. Alors le film, qui se passe dans les années 20, comme le roman qui adapte, a le style Luhrmann, c'est-à-dire avec une emphase esthétique, musicale, lyrique, tout à fait exagéré, et qui fait qu'on utilise beaucoup de chansons pop comme un décalage. C'était déjà le cas dans Moulin Rouge. Ma foi, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Personnellement, j'ai détesté, je dois le dire ici à ce micro, mais c'est parce que je suis un adorateur de Francis Scott Fitzgerald, et je n'ose même pas imaginer ce qu'il aurait pu penser de cette adaptation. Mais par contre, je devais être le seul de mon genre, puisque le film eut un box-office excellent. Et ma foi, bon, l'interprétation de Leonardo et de la douce Carey Mulligan n'y était pas pour rien. Voilà, on va écouter plutôt que mon avis un extrait de la bande originale de ce film, Gatsby le Magnifique, dans 24 notes, seconde. Thank you. Alors, nous n'avons pas puisé dans la partie pop, on a puisé dans la vraie bande originale de Gatsby le Magnifique, signée Craig Armstrong, j'avais oublié de le préciser. Avant d'écouter cet extrait, mes excuses, un film de Baz Luhrmann tourné en 2013, et comme le temps nous est compté, eh bien, on va juste dire qu'ensuite, eh bien, Baz Luhrmann réalisa une série télévisée pour Netflix, qui s'appelle The Get Down, sur la naissance du hip-hop dans la fin des années 70, très cher, très peu de succès. Et en 2019, toujours pour rester dans la musique, eh bien, il a tourné une biographie, de la façon Baz Luhrmann, de Elvis Presley lui-même, avec Austin Butler dans le rôle d'Elvis, tout simplement, et Tom Hanks dans le rôle du colonel Tom Parker, le fameux manager d'Elvis. Un film qui a eu un beau petit succès sur les écrans. Je ne l'ai pas vu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous dire qu'on va en écouter un extrait, et puis comme ça ne se fait pas d'interrompre Elvis, puisque vous allez le reconnaître, eh bien, je vous dis tout de suite au revoir, à bientôt. See you, bye bye dans 24 notes, seconde. Thank you.